Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient, RFI vous donne la parole pour commenter l'actualité. D'ailleurs, dans une trentaine de minutes, vous pourrez réagir à la réélection d'Alpha Condé en Guinée. Un coup KO, c'était l'un de ses slogans de campagne. Victoire dès le premier tour pour le président sortant. La Cour constitutionnelle a validé samedi soir la réélection d'Alpha Condé avec près de 58% des voix. Le problème, c'est que l'opposition dénonce une mascarade électorale. D'ailleurs, le principal parti de l'opposition a annoncé qu'il ne reconnaîtra jamais ces résultats. Alors peut-on éviter une nouvelle crise politique en Guinée? Quelle doit être maintenant la réaction des opposants? Vos réactions évidemment nous intéressent et vous pourrez d'ailleurs commenter la proposition faite hier soir par le représentant du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest. Il a appelé le président réélu à former un gouvernement de large consensus pour favoriser la sécurité en Guinée. 09 693 693 70. Vous nous appelez et nous vous donnerons évidemment la parole. Mais d'abord, comme tous les matins, votre rendez-vous pour mieux comprendre l'actualité. Ce sont vos questions pour décrypter tous les sujets que nous traitons dans nos différents journaux. Roger nous appelle de Lomé, il est au Togo. Bonjour Roger.
Bonjour Yoann.
Vous avez des questions sur la Chine?
Oui.
On vous écoute.
La semaine dernière, j'ai appris sur vos antennes que la Chine a mis fin à sa politique antinataliste d'enfants uniques. À ce sujet, j'ai des préoccupations.
Oui.
Est-ce que cette nouvelle politique peut-elle déboucher sur un pic de naissance? Dans ce cas, la Chine est-elle prête à accueillir tous ses enfants?
Ah oui, d'autant qu'il va falloir effectivement construire de nouvelles infrastructures, des écoles. C'est vrai que désormais, Pékin autorise tous les couples à avoir un deuxième enfant. Autant dire que c'est une révolution sur place. C'est la fin du strict contrôle des naissances mis en place en 1979. Bonjour Delphine Sureau.
Bonjour Juan, bonjour Roger.
Merci d'être avec nous, vous êtes l'une des correspondantes d'RFI à Pékin. La question de Roger est pertinente, avec la fin de l'enfant unique, est-ce que la fécondité va mécaniquement remonter? Va-t-on assister forcément à un baby-boom en Chine?
Eh bien a priori non, du moins pas tout de suite. On a parlé d'un autre assouplissement qui s'est fait en 2013 qui avait autorisé les couples composés d'un seul enfant unique, c'est-à-dire le père ou la mère, à avoir un deuxième enfant. Et désormais donc on a du recul sur cet assouplissement. À l'époque, 11 millions de couples étaient concernés et seuls 1,5 million ont déposé une demande pour effectivement avoir un deuxième enfant. Donc ça ne marche pas à tous les coups et cela pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'enfant unique est quelque chose de gravé dans les esprits ici en Chine. On entend souvent on est trop nombreux, avec le ralentissement économique, il y a du chômage, de plus en plus de concurrence entre les gens, ça ne sert à rien de faire davantage d'enfants. Depuis des années, en fait, à l'école, on répète aux Chinois que l'enfant unique a sauvé le pays de la surpopulation, ce qui lui a permis notamment de décoller économiquement. Un autre point important, c'est que élever un enfant en Chine, ça coûte de plus en plus cher sur les standards de l'enfant unique. Il ne faut pas rater l'éducation du seul enfant qu'on a. Beaucoup de familles, du coup, investissent énormément d'argent pour des cours particuliers, pour envoyer les enfants étudier à l'étranger. Et faire ces dépenses deux fois, beaucoup de familles ne peuvent pas se le permettre. Et puis, il y a ce dernier facteur qu'on retrouve aussi en Europe. Une femme qui a fait des études, qui travaille, fait moins d'enfants. Ça concerne la Chine aujourd'hui. Et il suffit de regarder ce que font les pays voisins de la Chine, le Japon, la Corée, qui, eux, ne contrôlent pas leur naissance. Et là-bas, on est en dessous de deux enfants par femme.
Ouais, donc les jeunes couples chinois ne sont pas finalement si enthousiastes que cela à l'idée de pouvoir avoir deux enfants. Ça signifie quoi, Delphine Sureau, que tous les projets de construire de nouvelles écoles, de nouvelles infrastructures, etc., tout ça est finalement remis dans les cartons par les autorités chinoises?
Et oui, c'est ça, puisque la Chine aimerait bien construire ses écoles, ses maternités. Cela fait partie du plan pour que les Chinois consomment davantage. C'est le calcul économique que fait le gouvernement, puisque les salaires augmentent en Chine, et du coup l'économie ne peut plus reposer uniquement sur les exportations. L'économie doit reposer sur la consommation intérieure, mais aujourd'hui les Chinois ne consomment pas assez, pas suffisamment en tout cas, pour faire redémarrer l'économie qui on sait est en train de ralentir. Donc moins d'enfants, si les Chinois ne se mettent pas à faire de nouveaux enfants, cette consommation ne pourra pas reposer cette croissance ne pourra pas reposer sur la consommation intérieure.
Et l'idée également, c'est de faire face au vieillissement de la population. Bientôt, il y aura plus de retraités que d'actifs et il va falloir payer les retraités, d'où la décision donc prise par les autorités de Pékin la semaine dernière, donc de supprimer le contrôle strict des naissances. Vous avez une autre question, Roger ?
Oui. Est-ce que cette nouvelle politique peut-elle renverser le déséquilibre entre les hommes et les femmes ?
Ah, l'assouplissement du contrôle des naissances vise aussi à réduire le déséquilibre homme-femme. Il y a aujourd'hui, je crois, 116 hommes pour 100 femmes, Delphine Sureau.
Oui, c'est ça, 116 garçons pour 100 filles à la naissance, hein, ce sont les chiffres des autorités chinoises. Alors, pour répondre à la question de Roger, oui, sûrement avec le temps, le déséquilibre entre hommes et femmes va se tasser, mais selon les démographes, il faudra encore des dizaines d'années avant que ça s'équilibre réellement, ou qu'on arrive à des niveaux plus normaux en tout cas, parce que dans les zones rurales, en fait, on détermine encore le sexe de l'enfant avant la naissance, ce qui est interdit, et on fait souvent un avortement sélectif, ce qui explique qu'encore aujourd'hui il y ait 116 garçons pour 100 filles, puisqu'à la campagne un garçon est plus utile pour travailler à la ferme, plus valorisé. Et donc ça va donner une génération d'hommes sacrifiés, hein. C'est déjà le cas, des hommes qui ne trouvent pas de femmes, dans les campagnes surtout on trouve des villages entiers de célibataires, puisque les femmes sont parties à la ville chercher du travail, elles ne sont pas revenues. Selon les projections chinoises, en 2020 le pays comptera au moins 30 millions d'hommes de plus que de femmes célibataires âgées de 20 à 45 ans. C'est énorme, cela ne va pas contribuer à relancer la natalité une fois de plus, et surtout, vous l'imaginez, cela va générer pas mal de frustrations, des frustrations auxquelles le gouvernement ne sait pas vraiment comment répondre.
Ouais, merci beaucoup Delphine Sureau de toutes ces explications. On salue évidemment Roger qui nous écoute à Lomé, au Togo, il est 9h18 à Paris. Ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Vous nous appelez, le principe est simple, hein, vous nous contactez toute la journée et on fait le maximum évidemment pour contacter les experts qui répondront le lendemain à vos questions. Florent est avec nous, bonjour.
Oui, bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs et bonjour à Joseph Tual.
Ah, Joseph Tual, vous êtes bien informé, Joseph Tual qui est à mes côtés, il est journaliste, ça fait 24 ans qu'il enquête sur l'affaire Ben Barka. Bonjour Joseph Tual.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez réalisé un documentaire Ben Barka, l'obsession, documentaire diffusé il y a quelques semaines sur France 3. Florent, quelles sont vos questions, puisque vous avez des questions sur la disparition il y a maintenant 50 ans de Mehdi Ben Barka?
Oui, Mehdi Ben Barka, le figure de la gauche marocaine, a été enlevé à Paris il y a de cela 50 ans. Sur ce, j'aimerais savoir qui est chargé de mener l'enquête. Aujourd'hui, sait-on qui étaient les principaux commanditaires?
Alors, en tout cas, Joseph Tual, lui, a ses propres convictions. Je le disais, ça fait plus de deux décennies que vous enquêtez sur cette disparition. Opposant marocain, mais aussi farouche opposant du roi, hein, du roi Hassan II à l'époque. Figure de proue du mouvement tiers-mondialiste, panafricaniste également. Avant de répondre précisément à la première question de Florent, arrêtons-nous juste un instant sur cette journée du 29 octobre 65. Ce jour-là, Ben Barka a rendez-vous à Paris dans une brasserie du boulevard Saint-Germain.
Voilà, et un journaliste il a rendez-vous avec un journaliste, un producteur et un réalisateur répondre à un projet Basta, film qui s'appelle Basta.
Un film sur la décolonisation.
Exactement.
En fait, tout ça n'est qu'un piège.
Bien ficelé, on va dire. C'est un travail de professionnel, hein, de membres de services secrets marocains qui ont monté cette opération.
En tout cas, ce jour-là, il est arrêté par deux policiers français.
Alors, oui, donc il faut revenir à la chose. Il est évident que Mehdi Ben Barka était un homme extrêmement en vue à l'époque, et donc très regardé, très suivi, très surveillé, très écouté, pourchassé aussi par ses ennemis. Et donc, Mehdi Ben Barka était très prudent et faisait très attention à sa propre sécurité, puisque lui-même avait été victime d'une tentative d'assassinat dès 1963 au Maroc. Et donc, il faisait très attention. Donc, il n'était pas question pour les services secrets marocains de se montrer boulevard Saint-Germain, en tout cas à sa vue, puisqu'il se serait douté tout de suite du problème. Voilà, donc On a fait appel à une équipe de barbouzes françaises, hein, de gens prêts à tout pour de l'argent et uniquement pour de l'argent. Il n'y avait rien de politique derrière leur motivation à ces Français, à savoir Lopez, Bouchèche, des truands notoires. Lopez était un indicateur de la police française et des services secrets français. C'est lui qui fait la cheville ouvrière entre les Marocains et les Français, et voilà. Le groupe français. Et donc, ils mettent à contribution deux policiers véreux à l'époque, hein, qui accèdent de lui rendre ce service, puisque lui-même en a rendu d'autres, donc c'est un peu on va dire un renvoi d'ascenseur. Donc ils vont interpeller Mehdi Belbarka de façon tout à fait professionnelle et officielle, mais ne sachant pas le but final de l'opération, puisque évidemment, si ça avait été monté effectivement directement par les services secrets professionnels, ils ont laissé un témoin, à savoir l'étudiant qui accompagnait Mehdi Belbarka libre, et donc c'est lui qui a donné l'alerte. Si ça avait été effectivement des forces internationales et enfin des services professionnels sur une affaire comme ça d'homicide d'enlèvement, il est évident que jamais soit ils auraient ajourné l'opération puisqu'il y avait un témoin, soit ils auraient enlevé le témoin.
Plus personne n'a plus jamais revu Mehdi Belbarka depuis ce 29 octobre 1965. Une enquête est toujours en cours.
Alors, une enquête est toujours en cours. Elle fait suite à la plainte de la famille, cette fois en 1975, pour assassinat. Donc, depuis 40 ans, le dossier d'instruction est ouvert. Et récemment, il y a à peu près un an, le juge Ramel, qui a travaillé pendant près de 10 ans sur cette procédure, a cédé le dossier à son collègue Cyril Paco, qui instruit actuellement le dossier.
Et c'est le plus vieux dossier judiciaire en France.
C'est le plus vieux. Depuis qu'il y a eu l'affaire Cézenec, elle s'est clôturée. Maintenant, c'est l'affaire Mehdi Belbarka.
Et il n'y a pas de prescription.
Non, alors il n'y a pas de prescription dans un dossier en cours à partir du moment où les juges qui se succèdent régulièrement sur le dossier font des actes. S'il n'y avait pas d'actes pendant 10 ans, effectivement, il y aurait prescription. Mais je peux vous dire que les actes sont très nombreux, quotidiens et réguliers.
Alors, Joseph Tual, Florent nous demandait, sait-on aujourd'hui, 50 ans après, qui étaient les principaux commanditaires du rapt? En tout cas, vous avez votre conviction.
Cette conviction, elle rejoint le dossier d'instruction. Il n'y a pas vraiment c'est pas compliqué, l'affaire Belbarka. On l'a voulu la rendre compliquée médiatiquement. Les services secrets ont fait beaucoup de bidouillage vis-à-vis des médias. Mais l'affaire Belbarka, un seul commanditaire, Hassan II. Point. Il n'y en a pas d'autre. Les seuls, quand on
même
parle...
Même si son nom n'a jamais été cité dans le dossier.
Au contraire, il est très cité, croyez-moi. Sauf que bon, effectivement, ce dossier n'est pas publié tous les jours. Donc il y a le secret d'instruction et c'est compliqué de pouvoir en faire état. Mais il n'y a qu'un seul commanditaire. Il est nommé régulièrement dans le dossier. Et surtout, on connaît même le moment où ça s'est décidé.
Et ceux qui parlent des États-Unis, ceux qui parlent du Mossad, des services secrets israéliens, qui seraient derrière la mort de Ben Barka?
Non, ça c'est les balivernes, c'est assez simple. Aucun service secret étranger n'a participé, à part celui de Hassan II à l'époque, directement, opérationnellement, à l'enlèvement proprement dit de Mehdi Belbarka. Vous imaginez que les affaires d'homicide, ça se règle en famille. On ne coopère pas sur l'enlèvement et l'assassinat d'un tel leader au niveau international entre les services. Je rajoute un petit point. Hassan II n'a obtenu, somme toute, un feu vert des forces internationales qui, elles aussi, ça les arrangeait plus ou moins de ne plus voir Mehdi Belbarka dans le jeu. Mais un feu vert ne veut pas dire un coup de main direct pour un assassinat et un enlèvement.
Ouais. On repasse au standard puisque Florent a d'autres questions. Florent?
Oui.
On vous écoute.
Quelles mandats d'arrêt ont été lancés? Pourquoi ne sont-ils pas appliqués?
Alors, les mandats d'arrêt, effectivement, il y en a 5 qui ont été lancés.
Alors, il y a 5 mandats d'arrêt. Maintenant, il n'y en a plus que 4, puisque l'un des hommes recherchés est décédé le lendemain de la diffusion du documentaire. Peut-être que c'est la justice divine. Au début du mois d'octobre. Donc, il n'y en a plus que 4. Et... alors, c'est peut-être un scoop pour vous, je sais pas, mais en 2013, suite à l'alternance politique en France, potentiellement, en tout cas, les mandats d'arrêt ont été enfin validés et actuellement, ils sont en activité dans tout l'espace Schengen. Ils concernent le général Ben Slimane, le véritable numéro 2 du régime actuel au Maroc, Abdelak Achachi, un policier marocain, Miloud Tounsi, un policier marocain, et Kadiri, qui était l'ancien patron, le général Kadiri, qui était l'ancien patron des services secrets marocains.
Donc après avoir été longtemps bloqué, ces mandats d'arrêt sont réactivés depuis maintenant 2 ans. Joseph Tual, le temps passe très vite. Merci beaucoup d'être passé dans ce studio, journaliste et auteur du documentaire Ben Barka, l'obsession, à voir certainement encore en replay, comme on dit, sur France Télévisions. Bonne journée à vous. Merci.
Merci.
On va repasser au standard avec une dernière question. Ghislain, il est au Gabon. Bonjour.
Je suis plutôt au Togo, dans la région des plateaux.
Autant pour moi. Oui, vous nous appelez de Notché, c'est au Togo, dans la région des plateaux. Vous avez des questions sur les propos de Benjamin Netanyahou sur la Shoah?
Justement, le 20 octobre dernier, Benjamin Netanyahou a fait certaines déclarations devant le Congrès sioniste. Et dans cette déclaration, il stipulait que l'idée de la Shoah, c'est-à-dire l'extermination des Juifs, aurait été suggérée à Adolf Hitler par le grand moufti de Jérusalem, c'est-à-dire Al-Husseini. Alors, à ce propos, je voudrais savoir, est-ce que les deux hommes se sont-ils rencontrés réellement en novembre 41?
Ah, vous voulez savoir si le moufti et de Jérusalem et Adolf Hitler se sont bel et bien rencontrés en 1941. Christian Ingrao, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, chercheur à l'Institut d'Histoire du Temps, spécialiste du nazisme. Alors effectivement, il y a 2 semaines, devant le Congrès sioniste à Jérusalem, le premier ministre israélien a accusé le grand moufti de Jérusalem pendant la Seconde Guerre mondiale d'avoir donné à Hitler l'idée d'exterminer les Juifs d'Europe, des propos qui ont suscité une levée de boucliers, notamment en Israël. Aucun historien sérieux ne peut confirmer les propos de Benjamin Netanyahou.
Tous l'infirment même, je vous dirais. Vous savez, pour cette... Effectivement, le grand moufti et Hitler se sont bien rencontrés. Ils se sont rencontrés le 28 novembre 1941. Mais sur cette rencontre, nous avons un compte-rendu extrêmement détaillé qui est publié depuis très très longtemps dans les archives allemandes. Hein, et dans ce compte-rendu, on a un très bon déroulé de cette séance. Le grand moufti commence par remercier Hitler d'avoir été invité, puis lui fait une sorte de description géopolitique du Moyen-Orient, lui expliquant que les Arabes et les nazis sont des alliés naturels, et que ce qu'il est venu chercher, c'est une déclaration publique d'Hitler pour appeler à un combat commun. Hitler lui répond à ce moment-là que l'Allemagne se trouve dans un combat à la vie à la mort avec les bolcheviks et les britanniques, bien sûr, au moment où les divisions allemandes passeront au sud du Caucase, il y aura une proclamation aux Arabes qui sera faite, une proclamation qui sonnera l'heure de leur libération. Mais en gros, vous voyez, on a affaire à du small talk diplomatique qui n'a pas grand-chose à voir avec la question des Juifs.
Oui, et l'idée d'exterminer les Juifs était bien antérieure à cette rencontre entre Hitler et le moufti de Jérusalem.
Alors, la chose est un tout petit peu plus compliquée, mais ce qu'on peut dire, si vous voulez, c'est que depuis août 1941, les nazis exterminent des femmes et des enfants sur le front de l'Est, en Serbie, et que depuis 3 semaines environ, ils ont décidé de le faire en Pologne, dans le gouvernement général. C'est-à-dire que, si vous voulez, plus de 55 à 60% des victimes du génocide sont déjà condamnées à mort quand le moufti et Hitler se rencontrent. Et de plus, ils ne font jamais allusion à la question de la solution finale. Référence dans le document au combat contre les Juifs en Palestine, mais rien d'autre.
Oui, ce qu'on peut dire, on a peu de temps, Christian Ingrao, c'est que le moufti, cette haute personnalité dignitaire religieux, était antisémite. Il s'est rallié à Hitler.
Oui, on peut dire qu'il est antisémite, c'est indéniable qu'il est antisémite, c'est une des grandes figures du mouvement nationaliste arabe depuis les années 20 et 30, mais il est antisémite, c'est tout à fait indéniable, mais il n'a rien à voir avec la question de la solution finale.
Ouais. Hein. Et on précise tout de même que depuis, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a fait un rétropédalage en affirmant qu'il n'avait aucune intention d'absoudre Hitler de sa responsabilité. Hitler était responsable de l'Holocauste. Personne ne doit nier cela, a déclaré il y a quelques jours Benjamin Netanyahou. Merci Christian Ingrao d'avoir été avec nous, historien, spécialiste du nazisme. D'autres questions pour mieux comprendre l'actualité demain. D'ici là, surtout n'hésitez pas, le standard reste ouvert. 33 9 693 693 70. On revient dans 10 minutes pour le débat du jour.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie après le journal.